Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel?
La réalité aujourd'hui dans notre pays,
c'est la stricte vérité.
La réalité, c'est
la réalité.
La réalité de la gravité de ce qui se passe.
Réalité.
Ça, c'est le monde que tu connais.
Je suis dans la réalité.
La réalité dans ce qui a été annoncé.
Réalité.
Toujours, quand c'est vous qui parlez. J'ai la vérité. C'est les faits.
Tu viens d'un monde imaginaire, Néo.
C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici.
Ça, c'est la réalité.
Bienvenue dans La Réalité, une émission mensuelle où l'on se penche sur ce qui nous est présenté comme la réalité à longueur de plateau télé. Ici, on passe à la loupe les doigts pointés pour attaquer les idées reçues. Avec nous des chercheurs, des sociologues, des économistes, des historiens, des politologues même, des acteurs territoriaux et associatifs, bref. Des gens qui connaissent leur sujet pour avoir tous les jours les mains dedans. Ensemble, pendant une heure, on tentera de démêler le vrai du faux, de comprendre ces grands sujets de société, souvent malmenés par le débat public. Sous notre microscope, c'est théories qui font les choux gras des grands médias, avec cette question toujours en tête, le réalisme me condamne-t-il à l'individualisme? Aujourd'hui, dans nos assiettes, le mythe de l'assistanat.
Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
La différence entre le travail et l'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. Parce que ça n'encourage pas les gens à reprendre un travail, parce que ça décourage ceux qui travaillent.
Les moyens dont nous disposons ne doivent pas être consacrés à aider les exclus à survivre, mais à leur donner la chance d'apprendre un métier ou d'exercer une fonction.
Prévenir, responsabiliser. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. C'est comme ça qu'il faut le faire, c'est correctif. Et donc il faut prévenir la pauvreté et responsabiliser les gens pour qu'ils sortent de la pauvreté.
Alors on sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. Donc bien sûr que, qu'il peut y avoir, qu'on peut regarder ça de cette façon-là. Donc.
Il n'y a pas de droit, il y a des devoirs, et il y a le mérite, et il y a le travail, et il y aura la récompense.
On doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas.
Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Le progrès des dépenses de santé, le progrès de la médecine, c'est un problème à la fois humain et économique, et il dépend du corps médical, en particulier de sentir qu'il n'a plus simplement des responsabilités de santé, mais qu'il a aussi des responsabilités nationales et même des responsabilités économiques. Je crois que c'est l'évolution partout. C'est d'ailleurs ce que recommande la Commission du marché commun à tous les partenaires de la communauté. Pour ma part, j'ai confiance, parce que j'ai confiance dans les hommes à partir du moment où on les oblige à être responsables.
Jeudi dernier, sur le plateau de LCI, se joue une scène bien rodée. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon se font face dans une opposition presque manichéenne quand la question sociale arrive. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le spectre de la fraude monopolise le débat. Monsieur Zemmour annonce ce chiffre, 50 milliards d'euros. Et ce chiffre, on le connaît, c'est celui avancé par Charles Prats qui sortait en 2020 un livre dont le bandeau s'illustrait comme cas d'école. Alloc carte vitale AME, les révélations d'un magistrat sur le scandale des 50 milliards d'euros annuels de fraude sociale. Passons sur la surévaluation de la fraude aux cartes vitales qui, comme Le Point l'a corrigé, n'est pas de 14 milliards d'euros, mais plutôt de 140 millions. Quand on en vient au traitement médiatique de la fraude sociale, la métonymie est presque une règle. De la partie pour le tout, on floute la frontière entre fraude sociale et fraude aux prestations sociales, comme si les deux termes s'équivalaient. Or, la fraude sociale se divise en deux types. D'un côté, celle aux prestations, qui concerne les bénéficiaires, et celle aux cotisations sociales, qui, elle, concerne les employeurs. En 2011, le député Les Républicains Dominique Tuan estimait que la fraude des employeurs était 4 fois plus importante que celle des bénéficiaires. Au terme d'une mission parlementaire de 11 mois, il concluait que la fraude des pauvres est une pauvre fraude. Alors il n'est pas question de nier la fraude aux prestations sociales. Elle existe et il faut lutter contre. Mais pourquoi diable le discours public, quand il se penche sur la question sociale, se concentre-t-il presque exclusivement sur elle ? Omnubilé par cette maigre fraude aux prestations, on oublie presque que tout est affaire de mise en parallèle et de lutte proportionnelle. D'autres fraudes pourraient attirer les doigts accusateurs, comme la fraude fiscale par exemple, beaucoup moins discutée et commentée, alors qu'elle représente 5 à 7 fois plus de pertes pour l'État et les citoyens. et qui s'inquiètent des dysfonctionnements du système social devraient également se préoccuper du taux de non-recours. À rebours du mythe de l'assisté, ces personnes auraient droit à une prestation sociale mais n'en font pas la demande. Plusieurs raisons l'expliquent, la méconnaissance, le manque d'informations, complexité de la démarche administrative, peur de la stigmatisation. Le taux de non-recours au RSA s'élève à lui seul à plus de 5 milliards d'euros non distribués. C'est plus important que l'ensemble de la fraude aux prestations sociales. Pour l'assurance chômage, c'est 2 milliards de droits non ouverts chaque mois. Alors pourquoi le débat sur le système français de protection sociale se pose-t-il toujours sous le prisme financier plutôt qu'en termes d'utilité, sur le montant de la réduction plus que sur le but de la prestation ? Mon petit doigt me dit qu'il y a là plus d'une anguille sous la roche.
Ça, c'est la réelle. Ça, c'est...
Alors avec nous ce soir, pour éclairer l'affaire, Michaël Zemmour, bienvenue.
Bonjour.
Michaël Zemmour, vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en économie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au sein de l'IAES, l'Institut Administration Économique et Sociale de la Sorbonne. Vous êtes également chercheur associé à Sciences Po, au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques sociales, l'IEP, le IEPP. Vous y occupez le poste de co-directeur de l'axe politique socio-fiscale. En 2021, vous êtes co-auteur avec Jean-Claude Barbier et Bruno Terret de la troisième édition du livre Référence, le système français de protection sociale. Il est sorti à la fabuleuse collection Repères aux éditions La Découverte. Nicolas Duvoux, bonjour.
Bonjour.
Vous complétez notre plateau, vous êtes professeur en sociologie à l'université Paris 8. Vous êtes membre du CRESPA Laptop, le centre de recherche sociologique et politique de Paris. Vous êtes également rédacteur en chef du magazine La Vie des Idées, membre du comité de rédaction des revues Sociologie, Liens Sociaux et Politiques et du portail Lecture Liens Sociaux. Anciennement personnalité qualifiée au titre des membres du collège universitaire de l'Observatoire de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion de 2014 à 2020. Depuis sa fusion, vous êtes du coup membre du Conseil national de lutte contre l'exclusion, le CNLE. Depuis le 18 janvier 2021, vous avez d'ailleurs été nommé président du comité scientifique de ce même CNLE. De 2009 à 2011, membre du comité d'évaluation du RSA. Depuis 2020, vous êtes membre du comité d'évaluation du RSA auprès de la Cour des comptes. Vous avez remis au Premier ministre en juin dernier un rapport sur la démultiplication de la pauvreté, dimension, processus et réponse.
Ça, c'est la réalité.
Qu'est-ce que la protection sociale ? De quoi parle-t-on quand on parle de protection sociale ? Quel est son lien avec l'État social, l'État-providence, tous ces mots qui s'agglomèrent en nuages et qui souvent sont utilisés l'un pour l'autre ?
Puisque Nicolas Duvoux me fait signe, je vais essayer de répondre. On peut se représenter les choses comme ça. On dit souvent qu'on vit dans une société capitaliste, avec un marché, une économie de marché très importante, et c'est vrai. Mais il y a un économiste qui s'appelle Christophe Rameau qui fait remarquer après d'autres qu'en fait, dans tous les pays développés, à côté du marché, il y a ce qu'on appelle l'État social, c'est-à-dire des structures organisées par les États, nations, qui à la fois protègent les individus et organisent la vie économique. Et dans cet État social, il y a ce selon Christophe Rameau, quatre piliers. Le premier pilier, c'est la protection sociale. Le second pilier, ce sont les services publics, par exemple l'école. Mmh. Et puis, il y a le droit du travail, qui est extrêmement important. Et enfin, les politiques macroéconomiques, les politiques de relance. Et donc, dans tous les pays capitalistes, en même temps que se développe le salariat, il y a ces formes d'État social. La protection sociale, on peut dire que c'est un des piliers. Et alors, pour rentrer dans le détail, en gros, la protection sociale, c'est deux choses. D'une part, une mise en sécurité du revenu des ménages, c'est-à-dire le fait que les ménages pour vivre ne dépendent pas uniquement à toute heure de la journée du travail sur le marché, mais peuvent avoir des droits et des protections. Et la deuxième chose, ce sont ce qu'on appelle des prestations en nature, par exemple en France, l'accès à la prise en charge des soins de santé. Donc la protection sociale, c'est cet ensemble-là, et qui existe dans tous les pays, mais sous des formes différentes.
Oui, si la définition qu'a donnée Michaël Zemmour est excellente, il y a juste un mot, mais je pense que c'est l'esprit de ce qu'il voulait dire et convergent avec ce que je vais ajouter, c'est le mot « à côté ». Parce que le mot « à côté » pourrait nous laisser penser qu'il y a le marché qui fonctionne, et puis à côté, quelque chose comme l'État qui intervient. Et ça, c'est une représentation qu'on a spontanément aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de redistribution. Comme la redistribution, ça vient après la distribution primaire des revenus dans le marché. Or, la protection sociale, la nouveauté historique, je pense, de la protection sociale au XXe siècle, parce que la protection sociale, il y en avait avant le XXe siècle. Il y avait des prestations d'assistance pour les vieillards, les indigents, les personnes handicapées. C'est d'avoir inscrit dans le marché des formes de protection qui vont socialiser une partie de la richesse produite. Et donc, les pensions de retraite, par exemple, c'est du salaire socialisé, du salaire continué, on va dire. Donc, c'est à l'intérieur. Et je pense que la force de la protection sociale, avec tous les aspects que Michaël Zemmour a évoqués, les services publics, le droit du travail, le droit de la protection sociale, c'est d'encastrer. Ça, c'est vraiment le grand penseur, c'est Karl Polanyi, qui a bien montré comment on avait encastré le marché dans un ensemble d'institutions qui finalement avaient une fonction de protection contre les risques de la vie économique. Donc c'est vraiment pas à côté, c'est dedans. Et la force de la protection sociale, c'est qu'elle est précisément un instrument de régulation qui est directement investi dans les relations marchandes. Et on pourrait le dire comme ça, pour rentrer directement dans la question de l'assistanat. Mmh. La question de l'assistanat, elle se pose principalement, prioritairement, sur des prestations dont, à tort ou à raison, on a le sentiment qu'elles sont déconnectées des du fonctionnement du marché, parce qu'on a isolé la protection sociale comme un élément, un pilier. C'est un des sous-ensembles de la protection sociale. Michaël aurait pu évoquer la distinction entre les assurances et ce qui relève de l'assistance.
Mmh. On en viendra sur la séparation entre modèle beveridgien et bismarckien.
Donc bismarckien, c'est les assurances, et beveridgien, c'est les assistances. Et il n'est pas du tout anodin que les débats sur l'assistanat se focalisent sur des prestations qui sont, comme on dit, non contributives, qui sont versées aux personnes sans qu'elles aient cotisé en amont, donc qui sont quelque part à côté du fonctionnement économique.
On y viendra plus en profondeur dans la seconde partie. On verra d'ailleurs qu'elles ne se concentrent pas uniquement sur ce qui est appelé assistanat, un petit peu à tort, mais qui relève de la solidarité sociale, mais que justement, en se concentrant sur les assurances, elle révèle une autre nature. Ça, ce sera pour la deuxième partie. Je me tournerai peut-être plutôt vers Nicolas Divoux pour poser cette question. Pourquoi nous montrons-nous solidaires ?
Pourquoi nous montrons-nous solidaires ? Parce qu'on...
Qu'est-ce qui le justifie dans un projet de société ? Outre que la gentillesse et l'humanisme et toutes ces belles valeurs.
Oui, alors la gentillesse, l'humanisme, le fait de se tourner vers son prochain, d'avoir de la compassion, c'est une version très récente et très dégradée de la solidarité. Ce qu'on appelle la solidarité en France, depuis la Troisième République, il y avait tout un courant de républicains qui ont porté cette question. Léon Bourgeois, Célestin Bouglé, Émile Durkheim faisaient partie de cette veine intellectuelle. La solidarité, c'est dénoncer un fait social. C'est le fait de l'interdépendance dans la société. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que dans une société... Je prends le langage de la fin du 19e, début du 20e, donc pas de confusion. Dans des sociétés archaïques, prémodernes, la solidarité est une évidence. On fait tous des activités collectives, on va tous à la chasse, on va tous à la pêche, etc. Dans une société moderne, qui repose sur la différenciation des fonctions, la division sociale du travail, la solidarité, elle est beaucoup moins évidente. On a l'impression d'être des individus autonomes qui faisons des choix. On se spécialise qui dans l'économie, qui dans la sociologie, qui dans le journalisme. On a l'impression qu'on fait des choix individuels. Et pourtant, ces choix qu'on fait, ils sont dépendants des spécialisations des autres. Et donc la solidarité, ce n'est pas une valeur, c'est un fait. Et ce fait, il vient amener une correction à des relations, à une conception du lien social ou de la société qui ferait de nous de purs atomes individuels sans relation autre que des relations de marché ou de contrat. Donc la solidarité, c'est le fait de l'interdépendance qui va être traduite institutionnellement par une régulation qui va assurer une liaison entre les différentes composantes de la société. Et cette liaison, elle peut être intergénérationnelle, ce qu'on voit aujourd'hui dans le système des retraites, elle peut être verticale entre les riches et les pauvres, elle peut être horizontale entre ceux qui ont des enfants et pas d'enfants. Bref, cette solidarité, c'est un fait qui va être traduit institutionnellement dans un ensemble d'instruments, services publics, systèmes de redistribution, de protection sociale. Et finalement, elle va être le grand, en tout cas en France, la solidarité, le grand véhicule intellectuel et idéologique qui va servir d'armature à la construction de l'État social autour des assurances.
Michaël Zemmour, est-ce que vous, en tant qu'économiste de point de vue aussi de votre discipline, vous complétez cette définition de conception d'une protection sociale et surtout d'une solidarité structurée, institutionnalisée pour réglementer quelque part les formes de domination,
Je me retrouve tout à fait dans ce que dit Nicolas Duvoux. Peut-être, du point de vue économique, ce qu'on peut ajouter, c'est que cette solidarité, elle n'est pas uniquement altruiste, c'est une forme de sécurité. La question très importante pour les individus, collectivement comme individuellement, c'est la question de la sécurité.
pour reprendre Karl Polanyi dont parlait Nicolas Duvaux tout à l'heure, en fait, les sociétés modernes capitalistes ont des développements tellement heurtés, et là, dans la période qu'on vit, c'est manifestement évident, mais au quotidien, la vie des individus est tellement heurtée par la maladie, les chocs sur le marché du travail, etc., qu'il est indispensable d'avoir une sécurité qui permette de vivre autrement qu'au rythme de ces chocs. Et donc, la solidarité, elle permet ça aussi. C'est-à-dire, effectivement, il y a plein de façons d'entendre la solidarité. Il y a les origines au 19e siècle. Il y a le côté, le souci de l'autre. Mais il y a aussi simplement la socialisation dont parlait Nicolas Duvaux tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre existence qu'on socialise. Et c'est précisément l'expérience qu'on a fait à une échelle considérable, par exemple, avec ce qu'on a appelé le chômage partiel, l'activité partielle. On a socialisé des ressources économiques, financières, même on a créé de la dette, pour, de manière solidaire, c'est-à-dire ensemble, sécuriser le revenu des personnes qui ont été protégées.
On y viendra en troisième partie. Alors, je voudrais ajouter à ça deux autres conceptions de la solidarité qui sont pratiquement de l'ordre paradoxal, je dois bien le dire, notamment à partir d'un appel qui a été fait en 2012 par un ensemble de directeurs généraux de services, pointait que en fait, la solidarité portait en elle-même son mal, dans le sens où en fait, elle était un outil d'individualisation. Qu'elle permettait l'indépendance de l'individu par rapport à des groupes d'appartenance et en ce sens-là, elle ouvrait les portes de l'individualisation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est pas faux. C'est-à-dire, je voudrais revenir sur quelque chose que Michael Zemmour a dit qui est fondamental. C'est-à-dire le système de protection sociale et en particulier de sécurité sociale ont vocation à procurer de la sécurité aux individus, de lutter contre l'insécurité, la hantise du lendemain, le fait des prolétaires qui avaient des revenus au jour la journée, aucune possibilité d'anticipation. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les débats sociaux, les débats fiscaux, les débats sur la protection sociale résonnent en termes d'égalité. On l'a vu dans la réforme des retraites. Il y a des statuts qui sont inégaux. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les unifier, etc. Le raisonnement de la construction de la protection sociale, ce n'est pas un raisonnement en termes d'égalité, c'est un raisonnement en termes de sécurité. Et l'égalité est secondaire. Et donc, si vous lisez les pères fondateurs de la sécurité sociale, l'idée, c'est d'assurer une sécurité qui va donner aux travailleurs un petit peu ce même sentiment de possession de l'avenir qu'ont les possédants. Donc la lutte contre les inégalités est secondaire par rapport à la question de la sécurité. Mais ça, c'est vraiment un point fondamental parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression que c'est la question de l'inégalité qui est première. Et la construction d'une sécurité sociale dans la société salariale, elle a de fait, sans aucune ambiguïté possible, elle a de fait émancipé les individus de l'ancrage dans des protections de proximité, des solidarités de village, des solidarités religieuses, des solidarités familiales, qui étaient la base, l'ossature des sociétés avant l'édification de ces grandes institutions. Donc dire que la protection sociale a, à travers des mécanismes de socialisation, permis une forme d'individualisation et libéré en quelque sorte l'individu de ses ancrages, on va dire, traditionnels, c'est tout à fait vrai.
Et c'est, on pourrait hérité dire, même, on pourrait dire.
Et c'est, on pourrait dire, c'est la grandeur de l'État social que d'avoir fait de nous des individus qui avons des marges de liberté par rapport à nos ancrages familiaux, encore une fois, locaux. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que les décisions qui sont prises aujourd'hui permettent de projeter dans l'avenir le même type de sécurité.
Et alors, il y a également cette deuxième vision, il me semble que c'est Robert Castel qui l'avance, qu'en fait, c'est le fondement premier de faire société, la solidarité, d'inclure l'autre et de le reconnaître comme je ne sais pas exactement comment dire ça, comme un équivalent, mais en tout cas, de le reconnaître déjà en soi.
Robert Castel, il employait cette expression, il reprenait cette expression à Léon Bourgeois, qui est de dire « la vocation de l'État social, c'est de produire une société de semblables. Mmh. » Ce n'est pas une société d'égaux, on n'est pas égaux. C'est une société de semblables au sens où on dispose tous d'un minimum de sécurité, d'un plancher de sécurité, idéalement fourni par des assurances sociales, parce qu'elles nous lient aussi à travers des organisations professionnelles et une activité qui nous donne une identité. Et donc, c'était vraiment l'idée de société de semblables. Mais enfin, Robert Castel était durkheimien, en tout cas dans cette deuxième partie de carrière, après avoir travaillé sur la psychiatrie et avoir été foucaldien. Donc, il y a une continuité totale avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la définition de la solidarité comme un fait social.
Okay, et alors, du coup, pour rebondir là-dessus et puis peut-être aborder quelque chose d'un peu plus anguleux,
la difficulté de cette solidarité, et c'est vrai, ça se pose dans tous les états sociaux, c'est les personnes qui en sont exclues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on définit une solidarité, on trace des frontières, c'est-à-dire on définit une communauté qui a des droits. Et en France en particulier, on a développé une solidarité très forte autour du modèle des assurances sociales, et puis avec des gens qui étaient...
Qui sont donc pour les assurances sociales, l'assurance chômage,
L'assurance retraite, l'assurance maladie. Mm-hmm. Donc des assurances qui au début concernaient uniquement les salariés, sous-entendu les salariés hommes, et leurs familles et leurs enfants. Mm-hmm. Puis ce sont des assurances qui sont étendues. Alors parfaitement par exemple, ou presque parfaitement pour l'assurance maladie, mais pas complètement. Et donc encore aujourd'hui en France, on a des personnes qui sont repoussées aux marges de cette solidarité. Je vous donne juste un exemple, on parlait du RSA, on a entendu, c'était assez écœurant, un florilège de citations de personnalités politiques, enfiler un certain nombre
enfiler des perles.
Voilà, et des contre-vérités. Mais quand on désigne les allocataires du RSA, une bonne moitié des allocataires du RSA, ce sont des personnes au chômage, privées d'assurance chômage. Et elles seront encore plus nombreuses après la réforme actuelle. Et donc, en fait, une des difficultés de la solidarité, c'est qu'on trace des frontières et qu'on repousse des personnes à l'extérieur. Deuxième exemple, aujourd'hui en France, l'assurance maladie est universelle et c'est un vrai progrès, mais on a délibérément laissé des personnes aux marges de cette assurance maladie universelle, les personnes qui ne sont pas en situation régulière et qui sont couvertes par l'aide médicale d'État, c'est-à-dire un micro-dispositif qui a pour principale fonction de servir à les stigmatiser au fil du débat public. Donc autant la solidarité, elle permet à l'individu de s'émanciper, autant si elle porte en elle-même son propre mal, c'est plutôt par les personnes qu'elle exclut.
Bon, on peut quand même établir qu'il y a des changements en cours dans les modes de vie, à plein de niveaux différents, dans les conceptions qui étaient à la fois dans la société d'après-guerre très stables, comme la famille, même l'entreprise, le salariat aussi est en mouvement. Comment la protection sociale qui est faite sur la société évolue exprime justement des réticences et des raideurs face à ces modifications ?
Une des grilles de lecture qu'on peut adopter, c'est sans doute pas la seule, mais elle mérite quand même d'être mentionnée, c'est de dire que face à des grands chocs, qui sont des chocs économiques, avec après les chocs pétroliers, l'augmentation très forte du chômage dans notre société, avec tout aussi un ensemble de chocs qui relèvent de l'organisation presque privée, avec l'augmentation des divorces, des séparations, à partir là aussi des années 70, la société, en tout cas la société française, a réagi par un mécanisme un peu malthusien, c'est-à-dire qu'elle a cherché à préserver un cœur de salariés protégés, dont on a vu, Michaël Zemmour l'a évoqué, l'activité partielle les a très bien protégés. Mm-hmm. Très peu d'entre eux sont tombés au RSA, donc c'est très efficace. Et elle a compensé ce malthusianisme, ce repli des assurances, par l'invention de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le pilier beveridgien, le pilier assistentiel. Et donc, dans la France des années 80, il y a eu un moment émotionnel, un moment empathique, les Restos du cœur, les chansons de Jean-Jacques Goldman, auquel a succédé un moment institutionnel de création d'un dispositif qui s'appelait le revenu minimum d'insertion et qui était prévu vraiment pour les marges, pour la très grande exclusion. Et simplement, ce qui s'est passé, pour raconter cette histoire longue et complexe et tortueuse très vite, c'est de dire que depuis 1988, le RMI, ce pilier beveridgien, il a été étoffé par des dispositifs en matière de santé, notamment, mais il s'est surtout très largement élargi, au point de couvrir des millions de ménages, c'est 2 millions de ménages, donc c'est beaucoup.
Il est sorti de sa fonction, en quelque sorte, il a été amené à un tas de tentatives de restructuration au cours des débuts des années 2000.
C'est-à-dire qu'ayant été créé, il a pu constituer une fonction, excusez-moi, c'est vraiment un terme absolument horrible que je vais employer, mais je pense qu'il est quand même réel, une fonction de déversoir pour le repli de la protection sociale et notamment de l'assurance chômage.
De réceptacle,
mais de déversoir, parce qu'en fait, c'est non assumé. Mmh. C'est-à-dire qu'on ferme l'assurance chômage et on dit, regardez, ça permet d'économiser de temps. Mmh. Mais on ne réfléchit pas à l'interdépendance fonctionnelle entre l'assurance chômage et la solidarité. Et de fait, cette interdépendance, elle existe. Et donc, tout le piège sémantique, politique, rhétorique de l'assistanat, c'est de nous faire croire que ces grands mouvements qui sont des mouvements organisés au niveau de la société, où on fait basculer l'assurance vers l'assistance, relève en fait de choix individuels de préférer être dans l'assistance que sur le marché du travail. Et donc, l'anguille sous la roche, elle est là. Elle est dans la conversion d'une organisation sociale et d'une désorganisation sociale en un ensemble de choix individuels dont nous serions tous contribuables les victimes. Et en fait, pour moi, la question de l'assistanat, elle est là. Elle est dans ce transfert au niveau des individus, de la responsabilité d'un risque qui est collectif.
Alors justement, pour préciser, on a observé, Serge Pogam en particulier, les cycles de la solidarité envers les pauvres, et on se rend compte effectivement, c'est ce qu'il note, qu'en période de crise, on est plus enclin au niveau population à exprimer des désirs de solidarité, des appels justement à l'humanisme, etc. Et qu'en période de reprise, on aura plutôt tendance à là être beaucoup plus moralisateur, je vais dire, sur les comportements des pauvres. Michael Zemmour, sur l'adaptation du modèle de protection sociale.
Bon, sur l'adaptation du modèle de protection sociale, j'étais d'accord avec ce que disait Nicolas Duvaux au tout début, c'est-à-dire que la société de marché, elle est intriquée dans la protection sociale, et en fait, il y a des... D'une certaine manière, c'est la protection sociale qui permet certaines évolutions aussi, dans l'autre sens. Et notamment, le développement de l'auto-entreprise, c'est-à-dire de la vie de travailleurs, de travailleuses précaires, en dehors du salariat et en dehors des protections traditionnelles, c'est aussi rendu possible, paradoxalement, par une forme de protection sociale qui se développe. Le RSA et la prime d'activité, c'est-à-dire des protections sociales objectivement au rabais par rapport à l'État social, ce sont des béquilles qui rendent viables ces activités-là. On va subventionner des activités extrêmement précaires dans lesquelles les travailleuses, les travailleurs n'ont pas l'ensemble des droits reconnus avec la prime d'activité un petit peu pour stabiliser ces activités. Et donc, effectivement, la protection sociale, elle évolue. Elle va aussi contribuer aux transformations du marché du travail. Mmh. Et puis, si on veut citer d'autres modifications à grande échelle, il y a évidemment l'augmentation de l'activité des femmes et leur participation au marché du travail qui a conduit à une transformation de la protection sociale. Il faudrait peut-être aller au bout. C'est arrêter de protéger les familles en tant qu'entité familiale, mais donner des droits plein et entier aux individus.
En reconnaissant leurs particularités, les intersectionnalités dans lesquelles dont ils représentent les carrefours, en fait.
Les modes de vie, les mises en couple, les séparations, par exemple avec l'individualisation des droits. Alors, on a beaucoup parlé de l'allocation adulte handicapé, mais ça pourrait être le RSA, ça pourrait être les allocations familiales. Et puis, une autre modification qui est devant nous, enfin, dans laquelle on est et qui est devant nous, c'est la question de la dépendance des personnes âgées. Mmh. Qui est un sujet de vieillissement sans doute plus important que les retraites et pour laquelle on peut avoir une réponse sociale. On a commencé d'ailleurs à l'avoir, mais pour laquelle il faut aussi faire des choix. C'est-à-dire financer...
Sous quelle forme on a commencé à la
prendre ? Vous avez quand même une industrie qui s'est développée avec l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment, ou même les EHPAD, c'est-à-dire des dispositifs sociaux qui finance l'aide personnelle aux personnes âgées à leur domicile ou dans les maisons de retraite. Le problème, c'est que c'est sous-financé et qu'en plus, les personnes âgées dépendantes vont être de plus en plus nombreuses et donc il faudrait monter ce dispositif en charge.
Dernier salopard, ma S. 4h du matin au mitard, je retrouve pas mon feu. J'ai toujours porté mes couilles depuis que je suis morveux. J'ai grandi dans le département le plus dangereux. Je sais qu'on n'entendra jamais ma S et morvieux. Passer la trentaine devient un exploit. Fini rafalé, tu passes dans l'express. Je la connais pas, la selle c'est qu'une extase. Je suis écouté du 59 au 13. On est dans un monde où l'essence est douteux. Midi sur ma montre, tu pas le terrain une fois sur deux. Y'a du pilon, des meurs, aussi de la bonne bœuf. Minuit sur ma montre, je pas le terrain une fois sur deux. Quelques billets cachés, je vends la mort en sachet, moi. Je voulais juste voir autre chose, moi. Je suis payé en caché, la main sur la gâchette, moi. Je voulais juste voir autre chose, moi. Appris à chasser, moi. On m'a pas ramené à graille. Lumière éteinte, j'attends toujours que vienne ma paye. Dragovic va goûter les chants à la paille. J'ai vu ce qui suceur de biter les mackerels. J'ai eu une escalade où bas je me barre en taille. 450€ de bénéfice sur la quête place. Un toc à ma cellule, je vends du shit, même au rejetat. 450 CRF en IL Honda. Plus le temps pour les têtes à tête, le peupon vous répondra. Dis-moi qui réplique, dis-moi qui reste là. Toujours dans ma tête, j'ai carrément un reste là. J'irai pas loin avec le RSA. J'finirai par être censuré par le CSA. Y'a des kilos cachés dans l'habitacle. Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. J'ai passé la douane, j'attends ma liste va. Je recompte le papel, je suis avec Lisbonne.
C'était Dragovic de Maes. Vous êtes toujours dans la réalité.
Ça, c'est la réalité.
Nous sommes toujours avec Nicolas Duvoux et Michaël Zemmour. Il est une tendance dans le système de protection sociale, une tendance à la réforme. Une réforme qui ne touche d'ailleurs pas que le secteur de l'assistance, qui est inconditionnel, mais également il touche celui de l'assurance, donc qui implique des cotisations. Ce qui nous fait présager que le mythe de l'assistanat n'est peut-être bien qu'un arbre qui cache la forêt. On a eu en 88 l'apparition du RMI, donc la mise en place d'un revenu minimum, pas universel, il y a quand même des conditions à remplir, vous ne l'avez pas dès la naissance, il faut certaines choses, qui a évolué progressivement en de revenu minimum d'insertion, il est passé de revenu minimum d'activité il me semble, puis depuis 2009, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, au revenu de solidarité active. On parle même d'un futur revenu unique de solidarité pour unifier tous les minima sociaux. À la même période, d'ailleurs, pour clore ma question, j'ajoute que l'UNEDIC et l'ANPE ont été fondus pour devenir Pôle emploi. Que doit-on tirer comme conclusion de toutes ces modifications ? Doit-on se méfier d'un Nicolas Sarkozy qui propose des réformes sociales ? Je me tourne vers vous, Nicolas Duvoux, vu que vous avez été
puisque j'ai le même prénom que Nicolas Sarkozy. Ouais.
Ne condamnons pas tous les Nicolas.
Voilà, c'est ça, pas d'amalgame. Je pense que la réforme du système de protection sociale, de fait, elle est aujourd'hui permanente et elle est sur tous les piliers.
De l'austérité permanente, pour reprendre Paul Pearson.
Paul Pearson qui a écrit un excellent article sur la manière dont on gère l'austérité permanente. Et donc, c'est vrai en matière de retraite, c'est vrai en matière de santé, c'est particulièrement visible sur les questions d'assistance. Parce que, en fait, on pourrait le dire, c'est des politiques qui, rapportées à l'ensemble des dépenses de la protection sociale, qui sont de l'ordre de près de 700 milliards d'euros par an. J'espère ne pas nous faire d'erreur dans les chiffres. C'est une confirmation importante. Les dépenses de solidarité sont des dépenses qui représentent vraiment une partie très très limitée de cet ensemble. Mais, politiquement, elles sont hyper visibles parce qu'il est possible sur... D'abord, c'est des populations qui ont des faibles capacités de rétorsion politique, électorale, et c'est des populations, des dispositifs sur lesquels il est possible de construire un discours politique extrêmement tranché pour la responsabilité, pour le travail. Donc, on est sur des catégories morales.
En fait, on a une opposition, la France qui se lève tôt et la France qui vit au crochet de ceux qui se lèvent tôt.
Voilà, et donc vous pouvez, sur ces populations, sans que personne vous contredise, construire des frontières morales, qui sont souvent aussi des frontières ethno-raciales, hein, de manière implicite. Il y a souvent des amalgames. Nicolas Sarkozy était très habile pour ça. Je parle de la France qui se lève tôt, et dans la phrase d'après, sans lien, je fais une déclaration sur l'immigration qui profite du système. Donc voilà, encore une fois, c'est pas dit.
Quand on sait que l'immigration est souvent celle qui se lève tôt, en prenant les métros à 4h du matin, c'est fort de café.
Et en plus, je veux dire, un tiers des allocataires du RSA sortent chaque année parce qu'ils vont sur le marché du travail. Donc en réalité, ça ne correspond même pas à la population. Mais simplement, et c'est là encore une fois le grand piège, c'est qu'on a des dispositifs et des populations sur lesquelles il est extrêmement facile de construire des frontières morales très simples, dans lesquelles, en quelque sorte, on va réarmer moralement la population. C'est ce qui a été fait au Royaume-Uni sous Thatcher et sous Blair. C'est ce que les néo... on va dire, les néo-démocrates ont fait sous Bill Clinton aux États-Unis. Donc c'est vraiment des stratégies de trouver, notamment pour des partis progressistes qui, on va dire, n'ont plus d'ambition d'émancipation, de trouver un message politique de substitution.
Michaël Zemmour, sur cette introduction de l'activation.
Oui, ça me paraît vraiment un point important. Alors souvent, on se pose la question, mais quelle est la politique sociale du gouvernement actuel ? Pas très éloigné des gouvernements précédents, mais et c'est une question un petit peu compliquée parce que Emmanuel Macron et son gouvernement, la protection sociale, c'est pas leur culture. Donc ils sont pas très armés, ils ont pas une grande vision comme ça pouvait être le cas de gouvernements précédents. Pour autant, on peut trouver une forme de cohérence et qui peut remonter à Sarkozy par ailleurs. C'est une vision assez éloignée de la sécurité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire la protection sociale française, bismarckienne d'ailleurs, traditionnelle. C'est une protection sociale basée sur la mise en sécurité. S'il y a un aléa, il y a la retraite, il y a le chômage, on vous protège des soubresauts du marché du travail et on vous met en sécurité. Et là, en fait, si vous regardez la prime d'activité, la réforme de l'assurance chômage, c'est très caractéristique. La réforme de l'assurance chômage, dans la forme habituelle, l'assurance chômage, si vous tombez au chômage, on vous donne un pourcentage de votre salaire de référence. Et la modification de la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur sans doute demain, on a changé la règle, on va vous donner des droits qui seront strictement proportionnels au nombre d'heures et de jours que vous avez passé au travail.
Sur une période bien particulière, ce qui est d'ailleurs l'un des gros points de pivot de cette réforme-là, c'est qu'elle désavantage totalement les contrats courts, le travail intermittent, qui par ailleurs est en train de se multiplier.
En contrat. Nouveaux contrats signés chaque année, oui, les CDD et même les CDD courts sont majoritaires. Mais par contre, il faut vraiment faire attention parce qu'on pourrait avoir tendance à penser, à partir de cette information-là, que la société française se précarise totalement. En réalité, plus de les trois quarts des salariés restent engagés aujourd'hui sous le régime du CDI, ce qui est à la fois rassurant, mais qui en même temps pose énormément de problèmes, comme le disait Michaël Zemmour tout à l'heure, à ceux qui sont en dehors. Parce que sans CDI, comme le CDI reste la norme, vous pouvez toujours pas avoir accès à un crédit immobilier, par exemple. Juste un exemple.
Oui, ça reste
concret.
Un tiers qui est un petit peu en dehors des cases sur tout ce qui est société, quoi, en fait.
Et donc, pour revenir juste sur cette vision néolibérale, parce que c'est vraiment ce projet-là, en fait, c'est une protection sociale, donc la retraite à points, l'assurance chômage, etc., où on veut être sûr que chacun de vos euros aurait été mérité, gagné, y compris quand c'est des euros de protection sociale. Et à l'inverse, si vous n'avez pas assez, c'est de votre faute. Si votre retraite est insuffisante, c'est que vous n'avez pas accumulé assez de points. Et dans la réforme de l'assurance chômage, si vous avez une période d'inactivité entre deux périodes de salaire, on va vous la faire payer en diminuant votre assurance chômage. Et donc on a une vision extrêmement néolibérale qui s'aligne avec la posture morale dont parlait Nicolas Duvoux tout à l'heure et qui transforme la fonction de la protection sociale. On n'est plus dans la sécurité, on est dans l'incitation et la punition.
Donc une contractualisation de la pensée de la solidarité.
Et qui fait de chaque individu, en permanence, de la naissance à la mort, un micro-entrepreneur de lui-même. Et donc ça, c'est extrêmement dur, violent et inégalitaire.
C'est extrêmement dur, violent et inégalitaire. Et je pense, pour revenir au débat par lequel on a commencé notre émission, mais qui est fondamental, c'est qu'on pourrait avoir le sentiment ça témoigne, on veut dire, d'un démantèlement de l'État ou d'une disparition de l'État. Et je pense que ce qui est vraiment fondamental et complètement contre-intuitif, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant, quelque part, l'assistance ou les prestations d'assistance vont chasser l'État social. C'est une excellente formule. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'État monte en puissance dans la gouvernance de la protection sociale, monte en puissance dans le financement, monte en puissance dans, le type d'instruments qui sont déployés. Et donc, quelque part, mais il n'y a aucune surprise. C'est ce qui s'est passé aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis quand un projet néolibéral a été mis en œuvre au début des années 80. C'est que ça ne se passe pas par un démantèlement de l'État. Ça se passe par un renforcement de l'État au détriment, par exemple, des partenaires sociaux qui étaient les gestionnaires de la protection sociale. Alors, ce n'est pas un processus complètement achevé, parce que de pilier en pilier, on ne peut pas dire que ce soit une étatisation totale. Mais néanmoins, en tout cas, dans le projet social macronien, s'il y en a un, si on peut lui trouver une cohérence, c'est une cohérence néolibérale, mais c'est aussi une cohérence, et il n'y a pas de contradiction entre les deux, c'est une cohérence étatique qui va chercher à mettre entre les mains de l'État l'ensemble des leviers de gouvernement de cette protection sociale qui, en fait, avait une logique d'associer, à travers les syndicats, à travers les partenaires sociaux, en réalité, des groupes sociaux très larges.
Oui, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle d'État social, on pense que l'État est seul acteur de cette protection, alors qu'en réalité, c'est bien un maillage entre tout un tas de syndicats, de partenaires sociaux, comme on les appelle, d'institutions privées qui sont chargées notamment, enfin qui ont une forme de délégation de compétences pour collecter des cotisations qui sont obligatoires, donc il n'y a pas d'enjeu de marché, enfin jusque-là. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même aussi des particularités. Vous avez tous les deux travaillé aussi sur nos voisins et sur des comparaisons de notre système. J'imagine bien qu'il y a des traits similaires, mais il y a bien aussi des différences. Je sais qu'en tout cas pour le Royaume-Uni, notamment, le souci de l'évaluation du taux de non-recours, ils sont beaucoup plus proactifs que nous. Alors même si là, effectivement, le non-recours, la lutte contre le non-recours a été inscrit dans la loi de financement de sécurité sociale là, très récemment, bon, c'est déjà quelque chose, c'est déjà un premier pas, mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste très timide. En Angleterre ou dans les pays du Nord, on a aussi une place des partenaires sociaux qui est bien différente dans le rapport de force. Parce qu'aujourd'hui, en France, ils sont censés participer au processus, mais en cas de désaccord, c'est l'État qui va reprendre la main. C'est ça concernant les assurances, hein, c'est ça. Donc on est parfois même face à un État qui va faire des propositions invraisemblables, désaccord des syndicats, et du coup, reprise de la main, c'est-à-dire ce qui est arrivé sur la réforme du chômage.
Ouais, il faut bien comprendre, tout à l'heure, Michael Zemmour a dit, voilà, dans toutes les sociétés capitalistes, en faisant référence aux travaux de Christophe Rameau, il y a ces grandes institutions qui servent la protection sociale, les services publics. C'est vrai, il y a une logique d'ensemble, mais cette logique d'ensemble, elle n'a jamais été unifiée du point de vue de ses modes d'application. Et donc, alors, il y a un sociologue...
C'est-à-dire qu'on a une structure commune, mais il y a toujours des dynamiques qui sont plus ou moins fortes et qui peuvent...
On va dire, voilà, il y a une structure commune de régulation du fonctionnement du marché, et donc de démarchandisation, de tempérance de la dimension marchande de la vie humaine.
C'est en ça qu'on peut être comparable, d'ailleurs.
Absolument. Par contre, dans les manières de faire et dans les degrés, et là, il y a vraiment deux critères, quoi. Il y a des manières de faire, soit vous passez par de l'assurance, soit vous passez par de l'État, globalement, c'est très caricatural, mais c'est quand même un peu ça. Et il y a des niveaux de protection, soit vous démarchandisez, soit vous sortez les gens du marché de manière forte, soit vous le faites de manière faible. Et donc, vous avez ces deux critères-là qui permettent de construire des typologies dans lesquelles, on va faire très simple, hein, il y a en gros un modèle nordique social-démocrate qui fonctionne avec un très très haut niveau de solidarité institutionnalisée, qui repose sur des droits individuels. Les jeunes ont droit au RSA à 18 ans, ils ont droit à une continuité de sécurité à travers des bourses, etc. Parce que c'est en tant que citoyen qu'on les protège. Donc, il y a des très hauts niveaux de fiscalité qui correspondent à des très hauts niveaux de protection. Et ça fonctionne avec des sociétés dans lesquelles les niveaux de syndicalisation sont extrêmement élevés.
Voilà, c'est donc, ça. Donc c'était bien.
Au Danemark, on a des niveaux de syndicalisation de 80-85%. Oui. Donc c'est considérable. Vous avez des pays du Nord.
Quand en France, on est à peu près autour de
7-8%, ça dépend des comptages.
Et 5% dans le secteur privé, ce qui est parce qu'en fait, voilà, il y a quand même une surreprésentation forte de la fonction publique dans
Et comment on l'explique justement cette différence dans la.
Bon, la syndicalisation, on dit souvent, quand on parle de la France, que ce n'est pas le meilleur indicateur, parce qu'en France, les syndicats, si vous regardez les deux endroits où ils ont du poids, c'est d'abord dans les conflits, que ce soit au niveau des entreprises ou au niveau interprofessionnel. Il y a quand même eu des grands conflits sociaux, par exemple sur les retraites, extrêmement importants, des grèves à répétition que les syndicats des autres pays, entre guillemets, parfois nous envient, même si en même temps ils sont plus associés aux affaires courantes et à la gestion. Et puis l'autre endroit où les syndicats français ont du poids jusqu'à aujourd'hui, c'est la gestion des assurances sociales. Alors ils étaient investis dans la sécurité sociale.
Ils sont d'ailleurs membres fondateurs, hein. Ils ont participé à la mise en place, à l'unification des caisses à l'après-guerre.
C'est ça, on pourrait citer notamment les travaux de Bernard Friot qui met au centre de la création de la sécurité sociale en disant que ce n'est pas seulement une question d'argent. 1945, c'est le moment d'un pouvoir ouvrier qui s'empare de ces caisses et qui est fondée par la CGT, puis les autres syndicats rejoignent. Et donc, encore aujourd'hui, les syndicats en France, ils ont deux endroits où ils sont très puissants, c'est eux qui décident. L'assurance chômage, mais en ce moment, il y a un bras de fer que le gouvernement est en train de remporter pour prendre le contrôle de la part de l'État. Et puis, les retraites complémentaires et le projet de réforme des retraites visait à, finalement, confisquer les retraites complémentaires et donc à étatiser l'ensemble des retraites. Et donc, en France, les syndicats sont faibles, ils sont en voie d'affaiblissement, il n'y a pas de doute. Et en même temps, ils jouent des rôles importants dans la vie politique sur un certain nombre de sujets, le droit du travail, la protection sociale, et ils jouent un rôle important dans la gestion d'une partie des assurances sociales.
C'est vrai que pour l'instant, ils agissent plus comme un rempart qu'un...
Ils sont clairement sur la défensive.
Oui, voilà, exactement, c'est ça. Ils jouent plus défense qu'attaquant, quoi.
Mais de temps en temps, en étant sur la défensive, ils remportent des victoires. Alors, c'est un intervalle très irrégulier, hein, c'est une fois tous les 10 ans. Mais effectivement, ils arrivent à mettre en échec un certain nombre de réformes. On peut penser au contrat première embauche il y a quelques années. Ils ont été en échec sur les lois travailleurs récentes. Et les réformes des retraites, il y en a une bonne partie qui ont déstabilisé les gouvernements. Et donc justement, par rapport à votre question sur ce qui est en train de changer, on peut penser qu'un des enjeux d'un gouvernement qui cherche à étatiser la protection sociale, c'est aussi de réduire le rôle des syndicats et des partenaires sociaux. C'est-à-dire que vraiment, c'est scier la branche sur laquelle ils résistent.
Un rôle purement consultatif.
C'est ça. Et donc, finalement, de les réduire. Et il n'y a pas de mystère. Les relations du gouvernement actuel, y compris avec les syndicats les plus conciliants, la CFDT, la CFTC, sont extrêmement mauvaises. Et donc, l'exclusion des partenaires sociaux de la protection sociale, c'est aussi un enjeu de pouvoir politique.
Alors peut-être sur les syndicats, juste pour précision pour l'auditeur, on différencie bien sûr les syndicats patronaux des syndicats salariés. Bon, sur le patronaux, il y a le MEDEF, il doit y en avoir peut-être, je ne sais même pas s'il y en a...
Il y en a deux autres importants.
Mais oui, mais le MEDEF, absolument majoritaire.
Les petites entreprises.
Oui, voilà. Mais on n'entend jamais d'ailleurs, et pour le coup, voilà, dans la part syndicat salarié, là, il y a beaucoup de dissensions, beaucoup de désaccords. Mais
qui sont très importants, parce que les représentants des petites entreprises donnent le là, et en fait, à des revendications qui sont après portées, d'ailleurs, vraiment à mauvais escient par des représentants de plus grands groupes qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes problèmes, les problèmes de charges, etc. Enfin, bon,
c'est vrai qu'on voit qu'ils occupent beaucoup moins les plateaux que.
Ouais, mais je voulais juste revenir sur ce qui vient d'être dit sur les. Alors, parce qu'évidemment. La tendance, le bras de fer qui se joue, il est autour de la gouvernance de la protection sociale. Et où est-ce qu'on place le curseur entre la démocratie sociale, des syndicats et puis l'État. Mais en fait, en matière quand même de... par exemple, on a des indicateurs sur la pauvreté dans notre société. Je pense qu'une partie de la défense et du caractère, pour le coup, pas défensif, mais aussi attaquant des syndicats, a quand même permis à notre société d'éviter des régressions sociales comme on a connu nos voisins. Ça, je crois qu'il faut quand même être prudent avant de dire on est en échec. C'est pas une critique, je pense que le diagnostic qui a été fait est absolument juste. Mais le fait même de se battre contre des trucs, même si on échoue, en fait, envoie un message qui est de dire ça passera pas si facilement. Et en fait, il ne s'est pas passé en France. Ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, c'était le grand modèle, le grand voisin, quoi. Avec une démocratie sociale, pour le coup, des syndicats très associés, l'économie sociale de marché, comme on l'appelait ça dans les Trente Glorieuses. Quand même, l'Allemagne a quand même complètement pivoté à partir du début des années 2000 dans la manière de concevoir les assurances sociales, avec une vision beaucoup plus restrictive, et en poussant les gens vers le marché du travail pour les jobs, les fameux jobs à 1 euro. Alors, Et du coup, ça a eu des effets très concrets. C'est-à-dire que l'Allemagne s'est quand même tendanciellement rapprochée des pays les plus inégalitaires, comme le Royaume-Uni, en Europe ou d'autres.
Mais est-ce qu'on ne s'y dirige pas également aussi avec toute notre conception là, du travail
Peut-être, c'est sans doute vrai, mais quand même beaucoup moins vite. Et beaucoup moins vite, et parce que sans doute les résistances du corps social aussi
participent, oui.
Impose des limites à des projets politiques qui, de manière absolument non équivoque, et là je suis d'accord avec vous, voudraient aller dans cette direction-là. Et donc il ne faut quand même pas perdre de vue que les sociétés ne réagissent pas toutes de la même manière par rapport à un projet néolibéral d'activation dont on peut penser qu'intellectuellement et politiquement, il est effectivement assez unifié.
Si vous regardez deux éléments, il y a eu récemment le rapport Blanchard-Tirol qui s'intéresse à la France et qui fait le constat que la France est finalement pas si inégalitaire que ça par rapport à ses voisins. Et puis, il ne cherche pas trop à l'expliquer, mais en fait, si vous cherchez des explications, il y a le rôle du SMIC qui a été très fortement défendu par les syndicats, qui a été maintenu dynamique et qui a resserré les écarts de salaire. Et puis, il y a les retraites.
Le SMIC est-il... tous les pays européens ont un SMIC maintenant non,
alors,
en,
il y a des salaires minimums ou des salaires conventionnels, mais le SMIC français, dans sa partie nette, est plutôt élevé. Et alors, effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'il est revalorisé de moins en moins vite. Et donc, il y a un projet de le laisser dériver. Mais jusqu'au milieu des années 2000, il était quand même plutôt dynamique. Et donc ça, c'est un facteur d'égalité important, avec une norme d'emploi aussi, qui n'est pas juste un contrat à l'heure, mais avec le CDI comme norme d'emploi et le temps plein comme référence.
Du coup, vous pensez que c'est un modèle qu'on devrait chercher à préserver
En tout cas, ça a été un facteur en France d'égalité. Et puis le deuxième facteur d'égalité, c'est les retraites. La France, contrairement à beaucoup de pays européens, elle se singularise par des retraites plutôt de haut niveau et exclusivement publiques. Et pourquoi ? Parce que les réformes des retraites ont été souvent mises en échec. C'est-à-dire que par rapport à l'Allemagne, à la Suède ou à l'Italie, la réforme que le gouvernement a voulu passer en France a été passée il y a 10 ou 15 ans dans ces pays-là. Et dans ces pays, les retraites ont diminué. Il y a eu un mix public-privé qui s'est développé. Et on a assisté à une baisse du niveau de vie des retraités, à une augmentation de la pauvreté des retraités. Et donc ce que disait Nicolas Duvou sur le rôle, y compris du mouvement social et des syndicats, en fait c'est sensible, y compris dans les indicateurs de la vie quotidienne. Alors on ne va pas dire que tout va bien, loin de là. D'ailleurs, y compris le système n'est pas forcément à défendre pour ce qu'il a toujours été. Il a des problèmes, il est patriarcal, il fait des exclus, etc. Mais en même temps, effectivement, l'égalité qu'on constate en France, où les segments d'égalité, ça vient aussi de ces résistances sociales-là.
Alors, on est pressé par le temps et je vais au moins poser cette dernière question. L'Europe sociale, est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle a des possibilités d'émerger ou en tout cas de s'institutionnaliser réellement ? Effectivement, on imagine bien qu'il faut qu'on passe par une forme d'homogénéisation des niveaux sociaux, mais aussi de la conception sociale d'une société au sein du territoire européen. Mais qu'est-ce qui...
Jusqu'ici, enfin, je pense qu'il y a eu sur l'Europe beaucoup d'optimisme sur la construction de l'Europe sociale. Il y avait, après, voilà, notamment à Lisbonne, un pacte qui devait faire de l'Europe une puissance voilà, de compétitivité, mais aussi d'intelligence, etc. Je crois qu'aujourd'hui, les esprits sont beaucoup plus sceptiques sur cette perspective. Parce que d'abord, la solidarité relève du périmètre des États. C'est une compétence subsidiaire. Ensuite, tout le monde a bien compris qu'il y aurait que l'agenda de réforme, alors c'est des contraintes auto-imposées par les gouvernements français. Oui. Je veux dire, il y a aussi un jeu de rôle à dire c'est l'Europe qui nous impose, c'est les gouvernements qui ont...
Vous pensez que tout est déjà bloqué au niveau de l'Europe.
Alors, je veux dire, les traités européens ont été signés par des gouvernements français, donc c'est des contraintes auto-imposées par des gouvernements qui avaient cet agenda-là, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et qui les ont transférés, ou ont transféré des compétences au niveau européen. L'Europe n'aurait jamais eu le pouvoir d'imposer des choses en retour, notamment le programme national de réforme tous les ans avec des objectifs, si les gouvernements n'avaient pas donné cette compétence. C'est-à-dire, là, c'est des contraintes auto-imposées.
Mais pour sortir maintenant une fois de ces accords, est-ce que c'est si... comment on fait, en fait ? C'est même pas une question de savoir si c'est compliqué ou pas, mais comment on fait ? C'est vrai que nous, on est quand même membres fondateurs.
Il y a une question de... Enfin, je pense qu'on peut prendre les choses de deux manières. Soit on veut sortir pour récupérer de la souveraineté sur des choix économiques ou sur des choix monétaires, par exemple, pour avoir des leviers de relèvement de la croissance. On peut aussi penser que, vu les enjeux, notamment les enjeux de transition écologique, qu'il n'y a absolument qu'à l'échelle européenne que des choses peuvent être faites. Et que donc, c'est pas dans le mouvement de séparation, mais dans le mouvement de conscientisation à cette échelle-là et de réforme profonde à cette échelle-là que des choses pourront être faites.
Il y a une dizaine d'années, ce que disait Nicolas Duvou, il y avait un débat à gauche. Il y avait une partie des sociodémocrates plutôt européistes qui disaient « on va construire un nouveau modèle social européen et on va construire quelque chose à l'échelle européenne ». Et puis d'autres qui étaient très sceptiques en disant bah non, la protection sociale, c'est un fait plutôt à l'échelle de l'État-nation. Et c'est tellement développé que vous n'allez pas pouvoir faire ce saut, les différences sont trop importantes. Aujourd'hui, il n'y a plus ce programme-là. Il n'y a plus personne qui dit on va faire une protection sociale européenne. De temps en temps, on parle d'assurance chômage européenne. C'est une blague quand on regarde sur le papier. Et donc, il y a deux chemins possibles en réalité. Il y a le chemin de la concurrence, qui est une concurrence très forte entre les États. Et pour être soutenable, ça impose de réduire la protection sociale. Et là aussi, on retrouve la cohérence du gouvernement français. Si vous pensez aux pays d'Europe du Sud, la Grèce, bien sûr, mais aussi l'Italie en partie, l'Espagne, le Portugal, on leur a demandé de démanteler une partie de leur protection sociale après la crise de 2008 pour se rééquilibrer vis-à-vis du reste de l'Europe. Et ça pourrait être un chemin adopté par la France, c'est cohérent avec la baisse des dépenses publiques. Et l'autre chemin possible... C'est un chemin où on ne va pas faire une protection sociale collective, mais on pourrait coopérer pour arrêter de se faire concurrence. où l'Allemagne pourrait dépenser de l'argent et pas essayer de tirer ses salaires vers le bas pour piquer des parts de marché, où la France pourrait aussi développer son système de protection sociale en faisant pas la course vers le bas, et où en même temps on pourrait faire des transferts pour aider les pays moins riches avec moins de protection sociale à développer la leur.
Michaël Zemmour, merci. Nicolas Duvoux, merci également. On le rappelle, Michaël Zemmour, cette année est sorti le système français de la protection sociale, 3e édition, aux éditions La Découverte. Merci également à tous ceux qui ont participé dans l'ombre à la création de cette émission. Philippe Fischer, chargé de programmation de l'antenne, merci pour ses conseils. À la réalisation, ce n'était rien de moins que notre nouveau président, Elliot Janon. C'était sur un générique original de Julien Gaffiot, sociologue, analyste des politiques publiques le jour, bassiste, ingénieur du son la nuit. La présentation, c'était votre dévouée Elsa Gavinet. Chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés et rappelez-vous qu'il ne faut jamais craindre de paraître ignorant, car c'est bien là l'assurance de le rester.
La réalité.